Alors, on est en Actes et on va continuer donc le livre des Actes. Nous allons lire Acte 16, versets 16 à 25. Acte 16, versets 16 à 25. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Et ici, dans notre passage, on voit que Paul et Silas vont être la cible de la méchanceté humaine. En tout cas, une lecture superficielle du passage, eh bien, nous laisserait penser ça, nous amènerait à cette conclusion. En réalité, nous savons, et la Bible dit, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes, mais nous devons lutter contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Et il faut regarder ce texte avec l'arrière-plan spirituel et avec toujours cette perspective de l'au-delà, quelque chose qui se passe dans l'au-delà. Donc, il y a un monde des esprits. S'il y a un Dieu, eh bien, il y a aussi un monde des esprits qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. On a vu la semaine dernière comment les disciples ont conduit une femme de distinction, Lydie, marchande de pourpre. Ils l'ont amenée à comprendre l'Évangile. Jésus-Christ est mort pour toi. Elle l'a saisi, elle a cru et elle a été sauvée ce jour-là. Et même sa famille a cru. Ils ont tous été sauvés. Ils sont passés des ténèbres à la lumière. Et ça, c'est quelque chose qui ne plaît pas au diable et qui ne plaît pas au royaume des ténèbres. Et l'histoire nous montre que chaque fois que quelque chose avance, il y a toujours une réplique du diable. Il essaye tout de suite de contrer, d'empêcher, de briser l'avancée que Dieu fait. Il veut freiner, il veut mettre des obstacles. Alors, comment s'y prend-il ? Dans ce passage, on voit d'abord comment le diable s'y prend pour essayer de briser l'élan, d'empêcher l'évangile. Et en même temps, Dieu nous montre comment avoir la victoire justement sur ces assauts. Et on ne devrait jamais prendre une attitude fataliste devant les attaques du diable. Ça, c'est ce qu'il attend de nous. Il attend que, on baisse les bras et on dise « Mais à quoi bon ? Comment on va faire ? Comment on va faire ?» Il voudrait qu'on le déclare vainqueur et puis qu'on déclare Dieu perdant. Mais on voit le plan de Dieu, il est tout autre. Si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Ça veut dire des enfants du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, de celui qui règne, de celui qui a dépouillé, la Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Il les a dépouillées, c'est-à-dire il a écrasé le diable avec toute sa puissance. Donc, la victoire, elle appartient à l'Éternel. Mais le diable va mettre toute son énergie pour essayer de stopper les enfants de Dieu. Et nous, si on emploie les armes de Dieu, alors, eh bien, on sera vainqueur au final contre le diable et contre sa puissance. Regardez versets 16 et 17. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait : Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Qu'est-ce qui se passe ici ? D'abord, le diable va essayer de pervertir la vérité. On voit qu'il va le faire en se servant d'une femme, apparemment qui était possédée, qui avait un esprit en elle, et qui va suivre les disciples et commencer à proclamer des choses. Donc l'esprit de Python, parce qu'il est dit, elle avait un esprit de Python, donc ça fait référence à la mythologie grecque. Et donc on disait qu'il y avait le serpent-dragon Python qui protégeait la déesse de la terre. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais finalement on liait la possession de cette femme à un dieu, hein, dieu ou déesse grecque, et on disait, mais elle a un dieu, et même le fait qu'elle pouvait, eh bien, ou elle semblait dévoiler l'avenir, eh bien, on l'attribuait à un dieu ou une déesse. Mais voilà que cette femme se met à crier, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut !» Tous connaissaient dans la ville cette personne qui était possédée, qui donnait l'avenir, hein, qui racontait l'avenir aux gens. Hein. Et ils pensaient qu'elle avait un dieu en elle, hein, qu'il y avait quelque chose en elle, hein, une déesse ou un dieu. Et ici, il semble qu'elle est en accord avec Silas et Paul. Ils vous annoncent la voie, c'est la vérité, écoutez-les. Et ça, c'était pas faux, c'était vrai, bien sûr. Hein. Ils étaient en train d'annoncer la voie du salut. Et on peut dire que le diable, il joue aussi sur la vérité. Mais quel est son but ? C'est de pervertir la vérité. C'est d'induire en erreur par la vérité qui est proclamée. Et là, elle proclamait la vérité. Mais en le faisant tout en ajoutant des choses qui sont mensongères et en tordant finalement la vérité. C'est ce que font les sectes. Si vous regardez les sectes dans le monde, la vérité de la parole de Dieu est mise en avant. Souvent, c'est la Bible. Hein. L'appui, c'est la Bible. On le met en avant. Par exemple, récemment, quelqu'un m'a dit « Oh, mais les revues des témoins de Jéhovah, c'est vraiment bien. Hein. C'est vraiment bien. Les sujets sont pertinents, etc. Et, » Et c'est vrai que si vous feuilletez, eh bien, c'est une revue un peu d'actualité, hein, qui parle des choses de ce monde, qui se passent aujourd'hui, des problèmes de notre monde. Et puis, c'est saupoudré de vérités bibliques, de vérités, des vérités. Et ça sonne juste. Ça sonne juste au premier abord. Mais lorsque vous commencez à regarder dans le détail, là, vous apercevez que, ben, y a des mensonges. Il y a des choses qui sont complètement tordues. On mélange, en fait, la vérité et on mélange avec de l'erreur. Et quel est le but en faisant cela ? C'est de semer le trouble et la confusion dans l'esprit des gens. Après, on ne sait plus où est la vérité, parce que tout est mélangé, tout devient, on brouille les cartes. Et cette femme, elle avait un démon en elle, et en criant la vérité sur les disciples, eh bien après, elle semait le trouble. Parce qu'après avoir crié la vérité, eh bien, elle pouvait disséminer les ténèbres et le mensonge. Et on pouvait continuer à l'écouter en se disant, mais finalement, si elle dit la vérité là, elle doit dire la vérité ailleurs. Et Dieu nous a prévenus que dans les derniers temps, il le dit, il y aurait beaucoup de faux docteurs, de faux évangiles et d'antéchrists. Et c'est le cas aujourd'hui. Et la vérité, elle est pervertie. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Ici, Paul n'a dit qu'une parole, sans crier, sans hurler contre le mauvais esprit. Il lui a simplement parlé avec autorité et il lui a dit de sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Et immédiatement, l'esprit est sorti. L'expression « il sortit à l'heure même », ça ne signifie pas forcément qu'il est sorti durant l'heure qui suivit, 45 ou 50 minutes plus tard. Mais c'est plutôt une expression qui signifie « à l'instant », sur le moment. On retrouve cette expression, par exemple, quand Jésus dit « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Et il est clair ici que l'expression à l'heure même, c'est que quand vous serez devant les tribunaux, alors eh bien, l'Esprit vous donnera immédiatement ce qu'il faut dire. C'est intéressant, je lisais ailleurs que on a une expression nord-africaine, maintenant un siècle, qui est en France, c'est faire fissa. Hein, alors, ceux qui étaient en Afrique du Nord, vous avez déjà entendu fissa, hein, vite, vite. Et c'est l'idée, hein, c'est, y a une idée de rapidité, ça va vite. Et c'est intéressant parce que, donc j'ai pas fait d'arabe, mais j'ai lu que fi, ça, c'est dans, et ça, c'est l'heure, le moment. Donc, en fait, l'expression fissa, c'est à l'heure même. Mais ça signifie ben, rapidement, quoi, hein, rapidement. Et donc, le démon est sorti rapidement. Hop, terminé, sorti, délivré. Comme dans les évangiles, vous lisez les évangiles, vous voyez Jésus, eh ben, à chaque fois, les démons étaient chassés très rapidement par la parole du Seigneur. Et donc, le diable ici, il perd en acte 16 son moyen de corrompre l'évangile, de corrompre la vérité. Alors, deuxièmement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à calomnier. Regardez verset 19 à 21. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, nous qui sommes Romains. » Un commentateur disait qu'il y avait effectivement une loi romaine qui disait que si quelqu'un introduisait une nouvelle religion, eh bien, il pouvait être déporté ou même mis à mort. Maintenant, il était faux de dire que ces hommes étaient en train de troubler la ville de Philippe. Ça, c'était entièrement faux. Ils étaient partis à un lieu de prière qui était à l'écart. Donc ça, c'était mensonger. Et on voit ici déjà qu'il y a de l'antisémitisme. On voit que les autres disciples n'ont pas été accusés, mais c'est simplement Paul et Silas à cause de leurs origines juives. Et les autres qui avaient des origines soit grecques ou païennes ou mélangées, eh bien, eux n'étaient pas accusés. Et en fait, ils ont cherché un prétexte pour essayer de charger ces hommes et les empêcher de continuer à annoncer l'Évangile. Et de nouveau, eh bien, il faut voir le diable qui s'opposait aux apôtres. On sait, la calomnie, le mensonge, mais ça figure parmi les armes favorites du diable. Il est le père du mensonge. Alors, il va essayer de corrompre le témoignage, essayer de salir le témoignage, essayer de charger les gens pour les empêcher de pouvoir continuer à proclamer l'Évangile et glorifier le Seigneur. Il va planter des idées fausses au sujet des chrétiens, afin que le monde s'oppose à eux et les empêche de continuer. Et puis, troisièmement, on voit qu'il peut chercher à nous atteindre physiquement. Regardez acte 16, verset 22. « La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. » Alors aujourd'hui, nous sommes dans un pays où nous sommes protégés quand même par les autorités. Et donc, les agressions physiques, elles sont limitées. Il y en a, mais c'est quand même peu. Dans bien des pays, c'est pas la même chose. Hein. Et on voit les chrétiens qui sont battus encore aujourd'hui, qui sont violentés, qui sont frappés injustement et parfois même mis à mort. Nous, on est protégé quand même physiquement. Mais comme on est protégé physiquement, alors eh bien, le diable s'y prend d'une autre manière. Et je crois vraiment qu'il s'y prend d'une autre manière. Comme il ne peut pas nous agresser physiquement parce qu'on est protégé par la loi, alors il va essayer de nous agresser moralement, psychologiquement, spirituellement. Et ce genre de choses, c'est plus difficile à prouver, hein. Quand eh bien, on est agressé par quelqu'un, mais moralement. Et quand le diable ne peut pas nous atteindre physiquement, alors il le fait de cette manière. Alors, ça va être par un voisin qui est acariâtre, qui est égoïste, qui vous empêche finalement de vivre dans votre espace vital, qu'il n'a pas vécu hein, à un moment, ça. Ou bien ça va être par un collègue qui est jaloux, ou bien ça va être par un patron qui est méchant et qui vous en fait voir de toutes les couleurs, ou bien ça va être par de la famille, parfois même notre famille, qui ne comprend pas notre manière de vivre et qui n'accepte pas certaines choses dans notre vie. Ou bien parfois le diable peut tout simplement nous attaquer dans nos pensées et il peut nous bombarder avec des pensées mauvaises. Des pensées négatives, des pensées noires, des pensées pessimistes, des pensées de jugement, des pensées de critique. Voilà, nous accabler comme ça avec de mauvaises pensées. En fait, tous les moyens sont bons pour stopper, pour arrêter ceux qui veulent avancer avec Jésus-Christ. Le diable veut qu'on chancelle dans notre vie. Et que, il n'y ait plus de témoignage pour Jésus-Christ. Alors, pour reprendre notre texte, Paul et Silas, on leur donnait des coups physiques, mais ça ne suffisait pas. Alors, quatrièmement, le diable va les faire emprisonner. Versets 23 et 24. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Et là, on va un cran plus loin, l'emprisonnement. Et si le diable peut emprisonner les chrétiens, il le fait. Aujourd'hui, ce n'est pas possible ici, mais c'est possible ailleurs. C'est possible en Chine, c'est possible dans certains pays intégristes, où il y a un islam intégriste. C'est possible en Corée du Nord. En France, liberté religieuse, donc on ne nous mettra pas les ceps aux pieds à cause de notre foi. Mais en attendant, le diable peut aussi essayer de nous mettre d'autres ceps aux pieds, ceps du péché. Il peut nous lier, essayer de nous lier d'une autre manière, nous mettre dans des prisons. Il y a d'autres barreaux où on devient prisonnier finalement de nos passions, de nos péchés, de nos convoitises avec tout ce qu'il y a dans ce monde. Tout ce qui vient susciter ces choses, il veut essayer de nous rendre de toute manière prisonniers. Et le but, c'est toujours le même, c'est nous empêcher d'avoir un témoignage qui glorifie Jésus-Christ, nous empêcher de briller de la vie de Jésus-Christ. Alors, on vient de voir plein de méthodes pour essayer de briser, de stopper la vie des chrétiens. Il essaye de faire que nous devenions des contre-témoignages et que nous reculions et que nous régressions dans notre vie avec Jésus-Christ et même que nous baissions les bras, que nous renoncions, que nous n'ayons même plus envie de lutter, d'avancer, de progresser. Et il y parvient à certains égards. Mais j'aimerais vous parler simplement un petit peu de Dieu. Quand on lit la Bible, elle ne nous décrit pas un Dieu créateur qui est faible, qui est petit, qui est impuissant, qui s'abaisse devant la grande créature du diable. Ce n'est pas ce que la Bible nous montre. Dieu ne nous a pas créés pour être dans la défaite face à son ennemi. Ce n'est pas possible, ça. Il ne nous a pas sauvés. Il n'a pas fait de nous ses fils et ses filles adoptives pour que nous soyons en échec et perdants constamment dans notre vie. Dieu n'est jamais perdant devant le diable. Il n'est jamais perdant devant le diable. Quand vous regardez les Écritures, d'un bout à l'autre, Dieu est victorieux. À chaque fois, il est victorieux. Il est le grand vainqueur du combat. Alors, il y a beaucoup de témoignages bibliques. Quand vous commencez, vous lisez la Bible et même vous regardez les vies autour de nous et vous dites, mais il y a plein de témoignages actuels où il semble que le diable est vainqueur. Il semble qu'il est vainqueur. Mais après la nuit, vient l'aurore. Il y eut un soir et il y eut un matin. Il y eut une tempête et un orage. Et au matin, il y eut le soleil. Et c'est Dieu qui est toujours victorieux au final. Il est toujours le vainqueur final. Et ça, c'est bon. Il faut qu'on s'en nourrisse. Ça, c'est la vérité. Regardez la croix de Jésus-Christ. En apparence, la croix de Jésus-Christ, c'est la plus grande défaite. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tragique. C'est comme ça que les disciples l'ont vu. Le Sauveur est mort. Le Sauveur est crucifié. Et il n'a rien dit. Ils l'ont percé avec des grands clous et il n'a rien dit. Son sang coule, son corps souffre, il ne lui reste plus qu'à rendre l'esprit. En apparence, c'est une défaite, la plus grande défaite. Mais finalement, c'est la plus grande victoire remportée sur le diable et sur le mal. La plus grande de toutes les victoires. Par la croix, la Bible dit que Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. Il a vaincu le diable en accordant aux hommes la possibilité d'avoir le pardon. Parce que Jésus-Christ est mort, nous pouvons tous être pardonnés. Il suffit qu'on vienne se blottir sous la croix de Jésus-Christ. Pardonne mes péchés et nous sommes pardonnés. Parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a vaincu le péché. Il nous a donné la victoire. Il nous a donné le pardon. Et même par Jésus-Christ et par sa mort, nous avons la victoire sur la puissance du péché. Jésus-Christ veut nous délivrer de nos péchés. C'est donc un triomphe sur le mal, sur le péché, sur le diable. Un triomphe. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble comment surmonter finalement ces assauts du diable qui veut faire sur nous. Parce que notre texte nous montre cela. Paul et Silas vont triompher littéralement de ces attaques. Comment ? Le seul qui ait vaincu le diable, le seul et l'unique, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est l'agneau de Dieu. Et pour que nous, enfants de Dieu, nous soyons vainqueurs, il faut que nous soyons revêtus de l'esprit de l'agneau. Être revêtus de l'esprit de l'agneau. En disant ça, l'esprit de l'agneau, on peut le prendre dans les deux sens. On peut le prendre dans le sens d'être revêtu de l'esprit de Jésus-Christ. Assurément, il faut que Jésus-Christ vous oigne, vous bénisse et vous remplisse par son esprit. Mais il y a un autre sens, un deuxième sens, c'est qu'on a besoin d'être revêtu de l'esprit de Christ, c'est-à-dire de l'attitude de Jésus-Christ. On a besoin d'avoir le même esprit que celui de l'agneau de Dieu. Première attaque du diable. Il veut pervertir la vérité. La réponse se fait par une parole. « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ » de sortir d'elle. Qu'est-ce que fait Paul en disant cela? Il proclame et il saisit la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Il saisit la victoire qu'il a sur les puissances démoniaques et sur les esprits méchants dans les lieux célestes. Il s'appuie sur le nom de Jésus-Christ dans lequel il est plus que vainqueur. Le diable nous attaque. Proclamons avec notre bouche, proclamons la victoire. Et on doit être convaincu que la victoire, elle nous est déjà acquise. C'est important de le comprendre et de le croire dans notre cœur. Jésus a dit, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » C'est-à-dire l'Esprit de Jésus qui est en vous, Dieu que vous avez reçu, si vous l'avez reçu. Si vous ne l'avez pas reçu, je vous invite à le recevoir. Mais quand vous le recevez en vous, alors l'esprit est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire que le diable. Alors oui, on est attaqué. Oui, il nous semble que l'esprit démoniaque du diable a le dessus sur nous. Mais celui qui reçoit Jésus-Christ dans son cœur, il a Dieu en lui. Et il est plus que vainqueur par Dieu qui habite en lui. Dieu n'est donc pas à la merci du diable, faible, sans force, devant un ennemi qui est puissant. Non, c'est Dieu qui est celui qui domine le combat. Il domine toujours le combat. Il est toujours au-dessus. Et Jésus-Christ est déjà vainqueur. Et on doit proclamer, avoir confiance en cette victoire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La réponse est personne. Dieu dit, mais si Dieu est pour vous, qui va être contre vous? Mais personne. Personne. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est lui le juge. Qui vous accusera encore? D'un péché, de quelque chose? Non. Dieu vous justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Jésus-Christ prie pour vous. Qui pourra vous condamner? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Sera-ce l'angoisse? Si vous êtes pris d'angoisse dans votre âme, sera-ce les persécutions? Si vous avez le sentiment d'être persécuté, est-ce que ça va vous séparer de l'amour de Christ? La Bible dit non, non. L'amour de Dieu demeure sur vous et vous garde, vous couvre. Rien de tout cela. Et Dieu dit, il conclut, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous fortifie. Quand on vient se blottir en Christ, on est plus que vainqueur. On relève la tête. Paul saisissait la victoire qu'il avait en Jésus-Christ. Il s'en emparait comme une arme pour repousser l'ennemi. Qu'est-ce que c'est finalement cette parole quand il dit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle » Qu'est-ce que c'est cette parole? C'est une parole de foi. C'est simplement une parole de foi. Et il faut qu'on prononce des paroles de foi. Dieu veut que nous ayons foi. Et si on a du mal à croire, si notre foi est chancelante, si on n'arrive pas à prononcer une parole de foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut lire des paroles qui suscitent la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Donc c'est en lisant la Bible que la foi grandit dans notre cœur. Il faut lire les promesses de Dieu. Il faut même apprendre par cœur les promesses de Dieu. Et après, eh bien, vous prononcez des paroles de foi. Parce que vous dites, oui, peut-être, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais Dieu a dit, et là, vous saisissez la victoire. J'ai foi parce que Dieu a dit. Et vous relevez la tête. Deuxième attaque du diable. Il va permettre que l'on dise du mal et que l'on calomnie Silas et Paul. Quelle est la réponse que Paul et Silas donnent? En fait, le récit est très sommaire ici. Mais il semble qu'ils n'ont rien dit, en fait. Ils n'ont rien dit. Silence. Soit parce qu'ils n'ont pas eu le temps de dire quoi que ce soit, soit parce qu'ils n'avaient pas l'intention de rétorquer. Et je pense plutôt que c'était ça. Si bien que la foule se soulève vite contre eux. Donc, on peut dire que c'est la troisième attaque. Ils commencent à s'en prendre à eux d'une manière qui est physique. Quelle est la réponse de Paul et Silas? Là encore, pas de réponse. Ils ne se défendent pas. Ils ne rétorquent pas. Ils n'essayent pas de donner des coups. Ils ne crient pas contre eux en disant « mensonge, mensonge, non !» Ils se laissent faire. Ils ne font rien. Et nous voyons que les apôtres avaient l'esprit de l'agneau, dans le sens de l'expression dont je vous parlais tout à l'heure. On peut même dire dans tous les sens, ils avaient l'esprit de l'agneau. La Bible dit, dans Ésaïe, elle parle de Jésus-Christ, elle dit, « Comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, Jésus n'a point ouvert la bouche. » Jésus s'est laissé faire. C'est ce que nous dit le prophète. Hein. Le diable a voulu le frapper, il n'a pas bougé. Il a reçu le coup. Le diable s'est plu à le fouetter, il n'a pas bougé. Le diable exultait à le crucifier, il s'est laissé crucifier, il n'a pas bougé. Mais sa mort sur la croix triomphe. Un triomphe. c'est son éclatante, c'est sa plus lumineuse, sa plus totale, sa plus parfaite victoire. Triomphe. Et si le diable s'en prend à nous, d'une manière ou d'une autre, par le biais des hommes, qu'il excite contre nous, notre victoire, c'est dans l'esprit de l'agneau. C'est dans l'esprit de l'agneau. Dans cette même attitude de l'agneau de Dieu. Ça, c'est le meilleur chemin pour parvenir à une victoire qui est parfaite. Regardez Dieu qui nous exhorte à avoir cet esprit de l'agneau. Vous pouvez garder votre main dans Actes. On va prendre Romains 12, versets 17 à 21. Il est dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. » S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà l'attitude parfaite de Jésus-Christ et l'attitude que Dieu veut que nous ayons. Attitude qui était celle de Silas et Paul. Ils étaient calomniés, ils étaient rejetés, ils étaient battus même, et ils n'ont rien dit. Comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, Paul et Silas n'ont rien dit. Ils n'ont point ouvert la bouche. Alors c'est une attitude qui n'est pas facile à adopter. C'est pas facile de se faire marcher un coup sur les pieds, et puis de ne rien dire. Surtout quand on a un tempérament en plus réactif, ça semble parfois impossible. Impossible. Ou en tout cas, au-delà de toute capacité humaine. Et c'est vrai, c'est au-delà de toute capacité humaine. Mais c'est l'esprit de l'agneau. C'est l'esprit de l'agneau de Dieu. Jésus a fait cela, il a triomphé. Paul et Silas ont fait cela, ils ont triomphé. Si nous, nous faisons cela, nous allons triompher. Mais pour y arriver, ça implique la foi. De nouveau, on revient, la confiance en Dieu. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Pour faire ça, il faut la foi. Il faut avoir confiance que Dieu nous aime, que Dieu prend soin de nous, que Dieu nous gardera, que Dieu protégera nos intérêts si on y touche. Dieu veut que nous ayons l'esprit de l'agneau et que nous puissions lui faire confiance, entièrement confiance. Et si les coups de l'ennemi, que le diable essaye s'il essaye de taper sur vous, mais pas d'une manière qui est physique, mais avec des coups plus dans votre âme, psychologique, des agressions morales, la Bible dit dans Éphésiens 6, que c'est le bouclier de la foi, de nouveau, qui arrêtera les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Les paroles méchantes qui nous sont envoyées comme des flèches sont arrêtées par le bouclier de la foi. Ou bien encore les pensées négatives, les pensées pessimistes qui nous sont bombardées sont arrêtées par le bouclier de la foi. C'est la foi en Dieu, c'est la confiance dans les promesses de Dieu, nourrie par la parole de Dieu. Dieu veut qu'on ait une confiance solide en sa personne qui est fidèle, qui est bienveillante. Dieu nous aime. Ayons confiance en lui. Et on le voit encore dans cette dernière attaque du diable. Quatrième attaque. Il fait emprisonner Paul et Silas. Donc il se retrouve avec des ceps aux pieds. Je lisais que peut-être, parce que ça se pratiquait, on leur écartait même les jambes hein, pour être dans une position très désagréable, avec des crampes, etc. Mais quelle est leur réponse? Comment vont-ils répondre à ça? Regardez verset 25, acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Et on voit que de nouveau leur réponse, c'est la foi. Ils sont avec des fers aux pieds. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. Ils ne peuvent rien faire. On se libère pas. Si ce n'est faire confiance à Dieu. Et ça, ils le font. Ils ont confiance. Ils se reposent en Dieu. Et c'est ce qu'il nous faut faire. Il faut prier, il faut chanter des louanges à notre Dieu. Le Seigneur veut que nous gardions sans cesse notre foi en lui, en son œuvre, en sa grâce, en son amour, en sa faveur, que sans cesse on ait confiance en lui. Et même si notre enchaînement n'est pas un enchaînement qui est physique, avec des chaînes, mais qu'il est plutôt un enchaînement relatif au péché, et dans lequel le diable veut nous maintenir, Dieu veut qu'on continue, et encore plus, à lui faire confiance. Même avec des cèpes aux pieds, les cèpes du péché, enchaînés par des passions, enchaînés par des convoitises, par des mauvais désirs, on peut quand même prier avec repentance, chanter avec espérance. C'est possible. Donc même si vous êtes accablé sous le poids de votre péché, priez avec repentance, chantez avec espérance. La délivrance vient après la nuit, vient l'aurore. Dieu veut, Dieu va briser vos chaînes. C'est sa victoire. Il vous a sauvé pour ça. Il vous a pas sauvé pour vous laisser prisonnier. Il vous a sauvé pour la délivrance. Et elle vient, elle arrive. Encore un peu de temps. Luttez, priez. Paul et Silas ont donc prononcé une parole de foi. Le nom de Jésus est vainqueur. Ensuite, ils ont agi avec l'esprit de l'agneau, se laissant faire, faisant confiance au Seigneur, la foi. Et lorsqu'ils se sont retrouvés dans la situation la plus inconfortable qui soit, prisonniers, de nouveau, la confiance, la foi. En apparence, c'était terminé. Ils étaient vaincus. Vaincus par le diable qui avait réussi à les faire taire et les empêcher de continuer leur ministère. Et pourtant, parce qu'ils avaient foi en Dieu et parce qu'ils ont continué à avoir foi en Dieu, Dieu a renversé la situation. Regardez verset 26, acte 16, 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent. C'est beau ça, hein? Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quelle promesse! C'est d'abord une délivrance soudaine de leurs liens. Dieu peut briser les liens qui nous enserrent. Un jour, ces liens tombent. Ils ne peuvent pas résister à la puissance de Dieu. Un jour, ça tombe. Et puis ensuite, ce grand tremblement de terre, et qu'est-ce qui se passe? Le geôlier tombe à genoux, on le verra une prochaine fois. Il accepte Jésus-Christ. Sa famille se convertit. C'est la deuxième famille de la ville de Philippe qui se convertit et qui va devenir les piliers de cette église de Philippe dont vous avez l'épître aux Philippiens. Et puis enfin, Silas et Paul vont être libérés, mais non sans excuses. On va leur faire des excuses. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce qu'il faut bien comprendre que, bien que juifs, Paul et Silas étaient quand même citoyens romains. Et qu'en tant que tels, on n'avait pas le droit de les arrêter, de les faire battre, de les jeter en prison sans qu'ils aient un jugement et qu'ils soient condamnés. Donc ça, c'était transgresser la loi romaine sur le droit et la justice. Et pourtant, c'était ce que les magistrats avaient fait. Alors quand ils ont appris qu'ils étaient romains, alors là, ils ont commencé à trembler. Regardez verset 38. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Donc les prêteurs, c'était en fait les juges, hein, c'était les magistrats. J'ai lu qu'il y en avait deux, donc qui étaient désignés par ville. Tandis que les lecteurs, c'était un peu les serviteurs. Alors je lisais peut-être un peu comme des huissiers. Et les prêteurs furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Le terme, c'est phobéo. Vous savez ce que c'est, une phobie, hein? Ouh, ils ont commencé en se disant, mais oh là, on va sauter et on va peut-être en mourir. On va peut-être en mourir. On va perdre nos privilèges parce qu'on a bafoué finalement le droit de Rome. Si bien que verset 39, ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté, en les priant de quitter la ville. Je lisais qu'un des sens pour le mot apaiser ici, c'est apaiser par des supplications. S'il vous plaît, ne dites rien, on est désolé, pardon, des excuses. Donc c'est un renversement de situation, complet renversement. Paul et Silas étaient au départ les grands perdants, semble-t-il, hein. C'était les humiliés, les rejetés, les calomniés, les battus et les emprisonnés. Et maintenant, bien Dieu sauve par leur témoignage, Dieu touche les cœurs et même on vient leur présenter des excuses. Les autorités s'inclinent. Dieu nous invite à lui faire confiance quand on se sent attaqué. Il veut qu'on ait foi et qu'on garde l'esprit de l'agneau. Ça, c'est le meilleur moyen d'en sortir victorieux. Jésus s'est laissé humilier. Il s'est même humilié lui-même, dit la Bible, en prenant une forme de serviteur. Et ceci jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Mais finalement, il est écrit, « Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Jésus-Christ s'est humilié, mais il est aussi celui qui va être élevé le plus haut. Il sera tout en haut. Il est le grand vainqueur. Et maintenant, le Seigneur nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Avec cette même attitude, Dieu sera avec nous. Et au final, il va nous accorder une pleine victoire sur nos tribulations, sur nos angoisses, sur nos persécutions, sur nos attaques, sur nos souffrances, et qu'elles soient morales ou physiques. On va avoir un moment de prière, qu'on puisse adorer notre grand vainqueur, notre grand Dieu.